Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
C'est l'heure du sport. Vous l'avez entendu, allons rejoindre Mathieu Boulay, journaliste sportif au Journal de Montréal. Bonjour Mathieu.
Hey, salut Marc-André.
Bon, là Mathieu, t'as passé le fin de semaine à Toronto pour le tennis. Et là, t'es encore, là, un jour j'imagine tu vas revenir parmi nous au Québec, mais là t'es encore à Toronto. Est-ce que ça sent le baseball pour toi ce soir?
Oui, étonnant, c'est que faut comprendre que à la fin du tournoi de tennis à Montréal, moi j'ai décidé de prendre des vacances. Fait que j'ai dit à mon fils de 6 ans, ainsi qu'à ma femme, avec mes deux autres enfants, j'ai dit, on devrait aller à Toronto, on va aller voir une partie de baseball, puis on va aller faire des activités autour de l'aquarium, la tour du TN, tu sais, le kit.
Le total, oui.
Exactement. Fait que là, je suis à Toronto par vacances, et là, je dois dire que, moi, qu'est-ce qui me fascine, c'est à quel point c'est frappant de voir qu'est-ce qu'une équipe du baseball majeur peut changer dans la dynamique d'une ville. Ouais. On a passé à côté de quelque chose de quand même vraiment intéressant, je crois. Tu t'en souviens, en janvier, on a eu un coup de pelle un peu dans le front, les amateurs de baseball au Québec.
Ouais.
Quand ils ont eu, Stephen Bronfman s'est fait refuser son projet de garde partagée par le baseball majeur. Et là, par la suite, là, ça a été vraiment un deuil pour tout le monde. Mm-hmm. Et là, moi, je le vis, là, je le vois, là. À 2h30, tout à l'heure, on était mangé au restaurant. Ben, j'ai vu des gens avec des chemises, des Jays, des Blue Jays de Toronto, en veux-tu, en v'là. Et là, moi, qu'est-ce que je veux t'amener comme point, c'est que à quel point une équipe sportive, professionnelle, peut être un moteur pour l'économie du Québec, peut être le moteur de l'économie du Québec. On le sait pour le Canadien. Pour le CF Montréal et les Alouettes, ça rapporte en économie un peu au Québec, mais pas autant qu'une équipe du baseball majeur ou une équipe la NBA ou une équipe de la NFL, peut-être. Et là, moi, qu'est-ce que je remarque, c'est qu'à Toronto, présentement, ils ont tous les gros sports. Ils ont la NBA avec les Raptors, ils ont le baseball majeur avec les Blue Jays de Toronto, ils ont le hockey avec les Maple Leafs, ils ont toutes les grosses ligues, là, sont en ville ici. Et le sport est tellement fort à Toronto que sont capables de faire vivre toutes ces concessions-là, puis il n'y a pas de concession qu'on dit, hey, es-tu de point de disparaître? Et ça, je dois dire que au Québec, on doit faire un peu notre mea culpa pour ça, parce que j'ai l'impression que le départ des Expos, le départ des Nordiques aussi à l'époque, là, on les a perdus et on cherche toujours à les retrouver, à les ramener. Mais là, c'est pas si facile que ça, parce que l'économie du sport a beaucoup changé depuis l'époque où ce qu'on a perdu ces deux formations-là. Alors, moi, mon point, c'est que je crois que le baseball majeur, la NBA, la Ligue nationale de hockey, ça, là, c'est des moteurs économiques. Et les gens, des fois, on chiale, ça coûte de l'argent, des contribuables. Oui, mais ça rapporte beaucoup plus dans une société qu'on peut le penser.
Mais est-ce que tu penses, monsieur, que le retour des expos, là, est-ce que ça va arriver un jour, tu penses? Est-ce que,
je pense que ce projet-là est sur le respirateur artificiel, c'est pas mort, mais quand même,
c'est
quand
pas fort,
Stephen Bronfman a répondu à ma question lors d'un Zoom en janvier dernier, M. Bronfman, avez-vous un plan B? Ben, le plan A, B, C, D, E, c'était la carte partagée. Là, tu te dis, oh, ça veut dire que le monsieur Bronfman, qui est un homme d'affaires aguerri, avait une idée en tête et c'était celle-là. Il n'y avait pas de plan B. Alors, moi, je pense pas que ça va revenir de si tôt. Et si ça revient, là, de mon vivant, là, moi, j'ai 43 ans, si ça revient de mon vivant, je vais être le gars le plus content pour Montréal, et je vais être le plus content également pour mes enfants, qui aiment ça venir au baseball. Mais là, si on veut voir du baseball maintenant, Marc-André, tu dois venir à Toronto, ou tu dois descendre au sud de la frontière, à Boston ou à New York. Donc, moi, je pense que on a manqué une belle opportunité avec le retour du baseball à Montréal, quelques mois. Et moi, à chaque fois que je viens dans une ville américaine ou une ville canadienne, que du baseball majeur pendant l'été, ben tu le sens, une équipe de baseball majeur, et tu sens à quel point c'est un moteur économique pour une ville. C'est ça mon point, mais J'en démontre pas. Une formation professionnelle de sport apporte beaucoup plus qu'une dépense des contribuables, selon moi.
Et là, Mathieu, si on reste dans le baseball, là, Fernando Tatis Jr., là, qui vient d'écoper là, de 80 matchs de suspension pour dopage, et son père, là, qui dit que là, c'est une catastrophe.
Oui.
Selon toi, Mathieu, c'est une bonne punition, 80 matchs, ou
oui.
C'est pas assez?
Oui, parce que ça a été prouvé dans les dernières années. Et les gars, des fois, là, ils mettaient pas rien que du lait dans le céréal, tu sais, pour acquérir la puissance, acquérir de l'endurance, d'avoir un petit avantage plus marqué sur les autres joueurs. Mm-hmm. Fernando Tatis Jr., le gros problème qu'ils ont, c'est que là, la chimie de l'équipe a pris un sale coup. Et là, mm-hmm. les gars, ils disent, ben là, il a pas rien que pensé à lui. Et là, ils nous abandonnent en pleine course au championnat. C'est que présentement, les Padres sont dans la course du meilleur deuxième dans la ligne salle de baseball. Et là, ils sont en train... Il y aurait besoin de Tatis pour produire des points, pour jouer dans le champ, pour... Il y aurait un impact dans cette course au championnat, c'est sûr. Et là, il a abandonné ses coéquipiers. Lui, il a dit, bon, on va prendre la suspension de 80 matchs, puis ça va être tout. Mais là, il a dit qu'il a pris ça. Il y avait un médicament pour éliminer une tangue. Il y avait une maladie qui s'appelle... Il y avait une tangue. Puis là, il avait pris ça, puis il avait dans ça, il avait des produits dopants. Mais il n'a même pas cherché à se défendre. Il n'a pas dit, je vais aller en appel de cette suspension-là, je vais prouver le contraire, j'ai rien de ça. Ça veut dire que, grosso modo, il est coupable. Il s'est lui-même inculpé lui-même en disant que il avait pris cette substance-là, mais il savait peut-être très bien qu'est-ce qu'il prenait dans ce médicament-là. Puis il l'a pris en toute conscience de cause, mais là, il y a eu un petit test inopiné. Et là, il se fait prendre. Puis là, ben, les Padres sont dans le trouble à cause de lui. Parce que, Fernando Tatis Jr. Est un joueur de balle exceptionnel. Puis je pense qu'il aurait pu avoir un impact important dans cette course au championnat-là. Mais pour le moment, il a pas porté sa cause en appel. Mais ça veut dire que les Padres vont se débrouiller sans lui jusqu'à la fin de la saison au complet.
Ouais, puis je pense une portion également de la prochaine saison là, fait que c'est pas juste cette année parce qu'il reste pas assez de matchs également, c'est les matchs de l'an prochain, donc ça va être un dossier à suivre, mais c'est sûr que comme coéquipier là, tu dis bon, ben regarde, il nous laisse dans le pétrin pendant que nous là, on faut continuer d'aller à la guerre puis essayer d'être en série.
Je dois saluer. Oui. Marc-André, par exemple, je dois saluer le baseball majeur qui a pris le taureau par les cornes dans les dernières années pour les suspensions pour le dopage. Hey, t'imagines-tu? Oui, je sais que c'est 80 matchs, mais ils en ont 162, mais c'est quand même 80 matchs, c'est une demi-saison. L'année salle de hockey, j'aimerais bien voir ça, moi, Gary Bettman, qui suspend un joueur pour 41 matchs pour dopage. On n'a pas vu ça encore. Fait que faut saluer aussi le baseball majeur qui a pris le taureau par les cornes dans les dernières années dans ce chapitre-là.
Non, je suis d'accord avec toi, Mathieu, parce que c'est vrai que c'est rare, par exemple, pour peu importe un geste, qu'on verrait une demi-saison dans la Ligue nationale de hockey. T'as couvert, Mathieu, on en parlait tout à l'heure, le tennis à Montréal, on en a parlé grandement hier. Et là, également, là, présentement, c'est le tournoi du côté de Cincinnati aux États-Unis. Et là, hier, au-delà du sport, c'est comme si la politique étrangère, ce qui se passe du côté de la Russie et surtout du côté de l'Ukraine, là, c'est invité là dans le tournoi de tennis du côté de Cincinnati.
Incroyable, incroyable. Moi, là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, je vais le relire parce que je suis sûr que j'ai pas bien compris. Il y a une madame qui s'appelle Lola. Lola est présentée au terrain de tennis où deux Russes jouaient sur le terrain, je pense en double féminin, avec la couronne de fleurs traditionnelle ukrainienne et un énorme drapeau ukrainien. À certaines estrades, sans rien dire. Okay. Là, les deux Russes, ils ont dit, hey, qu'est-ce que tu fais dans les estrades? Nanana. Fait qu'ils ont été soutenus à l'arbitre. L'arbitre était voir Lola, elle s'adresse directement à Lola. Là, elle dit, vous savez que c'est pas très bien de manifester comme ça, nanana. Elle dit, ben, je fais rien. Je dis rien, je fais rien. Mais vous savez qu'est-ce qui est encore pire? C'est de faire une invasion dans un pays. Mm-hmm. Là, l'arbitre a tourné dans sa chaise. Le directeur de la sécurité, il s'est amené au terrain. Puis, à la fin des courses, c'est que la pauvre Lola s'est fait expulser du terrain et des cadres des terrains. Ils ont trouvé une raison un peu loufoque pour trouver une raison plus loufoque, c'est que le terrain, le drapeau était trop grand. Il y aurait un règlement les règlements de la WTA que le drapeau ne doit pas dépasser d'une telle grandeur.
Okay.
Ça, là, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, ça se passe pas, c'est incroyable. Mais non, ils l'ont expliqué pour cette raison-là. Mais ils pensaient pas, par exemple, que les journalistes mettraient la main là-dessus cette histoire-là. Et là, ce drapeau-là, là, il fallait qu'il y ait, je sais pas, au moins 18 pouces, 18 pouces, pas plus. Moi, j'ai vu des drapeaux bien plus gros que ça dans les estrades à Montréal.
Ouais, c'est ça ma question, là, ouais.
Bien plus gros que ça, hier.
Mais là, comment est-ce que les responsables du tournoi ils ont-tu réagi? Parce que là, je veux dire, là, tu veux dire, est-ce que ça veut dire, ben, c'est vraiment, on est dans la politique, on est plus dans le sport?
La WTA, ainsi que le tournoi, ils ont marché sur des œufs parce qu'ils n'ont pas eu de réaction. Ils ont marché sur des œufs. Pourtant, quand tu vois qu'est-ce qui est arrivé, là, c'est la pauvre madame qui va t'expulser du terrain. Mais ils ont dit, Mets ton drapeau de l'Ukraine dans ton char, là, tu vas pouvoir venir au tournoi. Tu vas pouvoir assister à d'autres matchs. Ben, crée-moi pas. Ça s'est fini comme ça. Mais tu vois à quel point, quand on mélange politique et sport, à quel point ça peut être très touché, très...
Non, t'as raison.
Surtout dans la situation actuelle. Là, les Russes, ils ont commencé à rejouer des tournois à Marc-André. Là, à Montréal, il y avait des Russes. Il y avait pas de Russes à Wimbledon, à Montréal, à Washington, à Cincinnati, il y a des Russes. Ils vont pouvoir participer aux internationaux des États-Unis à New York. Mais là, la guerre, elle n'est pas finie, là.
Je
pense que les Ukrainiens s'arrangent pour pas que la guerre soit oubliée. C'est que là, il y a des morts qui s'accumulent à tous les jours et les Ukrainiens, eux autres, n'oublient pas. Et ils veulent pas que les gens en général, la population générale, oublie qu'est-ce qui se passe en Ukraine présentement, qu'ils sont un peu maltraités, martyrisés, assassinés par les Russes.
Mais est-ce que tu as vu, toi, là, du côté de Montréal, est-ce qu'il y avait des joueuses russes en fin de semaine à Montréal?
Oui, tout à fait. À Montréal et à Toronto. À Montréal, Danil Medvedev, André Rublev, Karen Khachanov, ils étaient tous là. Mais eux autres.
Puis l'accueil était comment des gens? Puis l'accueil était comment? Parce que tu sais, moi, ces athlètes-là, là, puis souvent on dit oh, ils devraient dénoncer là, le Poutine. Là. Ben, tu sais, je veux dire, on le sait que s'ils font ça, qu'est-ce qui va leur arriver? Moi, je leur en veux pas, puis je leur demande pas non plus de d'attaquer Poutine. Mais est-ce que les gens, j'imagine, comment était l'accueil des gens dans le stade à Montréal?
En général, très respectueux. Moi aussi, j'avais hâte de voir ça, Marc-André. Tu vois, t'es dans la même curiosité que moi. D'ailleurs, l'accueil pour Daniel Medvedev, c'est un champion en titre de Montréal, mais c'était très respectueux. Ça n'a pas été une ovation debout comme avec Félix Auger-Aliassime, là. Mais quand même, c'était très respectueux. Quand il a perdu, par exemple, Daniel Medvedev, quand il est sorti du terrain, il y en a un, il y a un spectateur, c'est devenu viral, ça. Il est sorti du terrain, puis il a perdu contre Nick Kyrgios. Il sort du terrain, il y a un monsieur, il y a un couloir de monde, là, si tu veux, pour venir au vestiaire. Puis un gars qui a traité de loser. Mais Daniel Medvedev, au lieu de dire, mange la merde, je mange au vestiaire, il a retourné avec les gardiens de sécurité, puis il a parlé en français, puis il dit, réfléchis avant de dire des choses comme ça.
Mm-hmm.
Mais tu vois que l'épiderme des joueurs russes est quand même sensible. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai remarqué. C'est que là, les remarques comme ça, là, les gars, ils sont très, très sensibles, bien plus sensibles qu'avant. Alors, là, dans le cas de Daniel Medvedev, l'accueil était respectueux, mais ça n'a pas été une invasion debout non plus. Par contre, faut pas non plus oublier ce qui se passe à travers le monde, puis qu'il y a des Ukrainiens qui souffrent. Puis je pense que là, les joueurs russes le savent, les athlètes russes le savent, ils s'en font parler à tous les points de presse. Daniel Medvedev, Rublev, Khachanov, ils ont été très, 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 très prudents dans leurs propos quand ils ont parlé de ça, puis ils ont évité même la question si c'était possible.
Ouais.
Et je les comprends, c'est inconfortable, et comme tu dis, ils veulent pas rien dire, parce que s'ils disent quelque chose, leur famille peut être en danger dans leur pays.
Effectivement. Mathieu Boulay, journaliste sportif au Journal de Montréal, je te laisse. Bon match ce soir, profites-en, vu que, bien sûr, à Montréal, c'est pas pour tout de suite le retour du baseball majeur. À demain, Mathieu.
OK. À demain, salut.
Bye-bye. Sinon, c'est déjà tout pour l'émission aujourd'hui. On se retrouve demain, 15h.